Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et non, on a failli être trois cette semaine, mais ça sera pas encore, encore pour cette fois. Mais au moins, pour une fois, il y a un petit changement dans l'équipe, donc
oui.
Écoute... Voilà, donc, alors, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du Kickstarter de Renoir, on enchaînera ensuite sur un nouveau concept, le Downgrade, 6 mois après la sortie d'un jeu, nous évoquerons également l'arrivée de la saga Tales of sur PC, on parlera au passage du cas de Warner Bros. Qui, décidément, ne fait que s'enfoncer au fur et à mesure que les jours passent. Nous évoquerons également Sony qui lance sa plateforme de crowdfunding. Ah, pardon. Excusez-moi, il faut que je m'en remette. Ok, non, parce que là, vraiment, là, ça va falloir qu'on en discute. Hein. Nous parlerons ensuite de la collectionnite. Alors, la collectionnite, c'est un petit sujet comme ça qu'on s'est décidé de lancer parce que bon, il y a eu la news cette semaine comme quoi il y aurait un prototype qui aurait été trouvé d'une certaine console et on s'est dit que on profiterait de cette news, n'est-ce pas, pour parler. De ce phénomène qu'il y a actuellement dans le milieu du jeu vidéo, à savoir que les jeux valent de plus en plus cher.
Comme on est deux vieux du jeu vidéo, ça tombait bien.
Voilà, parce qu'on est à peu près sûr que ce prototype, si jamais s'avérait que c'est bien un prototype et que c'est pas un fake, il va vendre une fortune sur un site aux enchères. Et enfin, pour terminer, quel nouveau sujet de mots. Encore.
Pour changer.
Voilà. Vous sentez notre enthousiasme débordant. Bon, allez, c'est parti. On commence donc avec le Kickstarter de Renoir, mon cher Ben.
Ouais.
Renoir, qu'est-ce que c'est? C'est un puzzle platformer. Vous allez me dire encore un. C'est vrai. Et quand je vais vous dire qu'il est en noir et blanc, vous allez encore me dire encore un. Et vous aurez raison. Alors, Renoir, comme son nom l'indique, c'est un jeu avec une ambiance noire. Artistiquement, ça défonce. Techniquement, c'est très propre. Il a l'air d'avoir quelques idées de gameplay. Après, j'ai envie de dire encore un Kickstarter qui est un puzzle platformer en noir et blanc arty, quoi.
Voilà. Après, ouais, le gameplay a l'air un peu changeant par rapport à d'autres jeux, donc on va l'expliquer vite fait. Mm-hmm. En fait, le début du jeu, c'est pas un spoil d'entrée. En fait, on apprend que son personnage est mort. Mmh. Et en fait, qui peut communiquer avec des esprits, en fait, avec des victimes, des gens qui sont fait tuer dans certains endroits, pour l'aider en fait à résoudre donc des énigmes. Et notamment, ça se passe souvent sur des jeux d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que quand il y a de la lumière, il va pas pouvoir passer, mais s'il fait appel en fait à l'âme d'une de ses victimes, qui va pouvoir lui éteindre, par exemple l'interrupteur, lui il va pouvoir passer, etc. Mmh. Ça s'enchaîne comme ça, un puzzle classique, mais avec une idée de noir et blanc, en fait, de jeu de lumière, qui a l'air assez sympa. En tout cas, dans le trailer de gameplay, ça a l'air plutôt bien fait.
Bah, en tout cas, c'est un Kickstarter qui, à mon sens, mérite d'être financé parce que la campagne est très solide. Mmh. Il montre du gameplay. Voilà, c'est super joli, enfin bref, c'est typiquement le projet qui mériterait d'être financé. Mon bémol juste, c'est que j'ai l'impression de voir un jeu que j'ai déjà, enfin c'est, certes il y a quelques idées, mais c'est du déjà vu quoi, on va dire.
Donc, c'est vrai qu'en ce moment sur Kickstarter, ça a un peu de mal à se renouveler quand même, faut dire ce qui est. Au début on a eu beaucoup de jeux qui avait des concepts et des idées assez sympas, qui étaient assez nouvelles. Et aujourd'hui, c'est souvent, on reprend des idées, on les modifie un peu en changeant une ou deux idées de gameplay, et on fait un jeu comme ça. Alors après, ça n'empêche pas que le jeu soit très bien fait. Mmh. Mais c'est vrai que après c'est difficile de s'imposer. On en parlait la dernière fois avec un Kickstarter, je me souviens plus du titre, enfin un jeu qui ressemblait un peu à Star Citizen, et on était venu à la conclusion que s'il n'arrivait pas à sortir avant, il allait se faire bouffer s'il sortait après, parce que ça allait être du déjà vu, quoi.
Voilà. Parce que, on peut paraître dur comme ça avec le jeu, mais ça, je suis sûr que le jour où il sort sur Steam, au bout de 3 jours, une fois qu'il sera plus sur la page d'accueil,
oui, bah,
c'est terminé, quoi.
Voilà. Oui, exactement. Ouais.
Et le problème des indés aujourd'hui, c'est tout leur problème, c'est que il faut qu'ils se démarquent, quoi. Alors lui, il va essayer de se démarquer, c'est sur sa direction artistique. Mm-hmm. Parce qu'il faut avouer quand même que c'est super mignon, enfin
ouais.
Voilà quoi, c'est...
C'est vraiment sympa, ouais.
C'est très classe, tu sens vraiment l'ambiance noire, quoi. Alors, bon, après, on peut me dire qu'ils reprennent tous les clichés du noir, mais bon, c'est pas...
Après, de toute façon, aujourd'hui, on va toujours retrouver un jeu qui sort, on va quasiment tout à trouver un jeu qui a déjà fait un peu pareil. C'est dur de totalement innover aussi, donc.
Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas non plus 36 000 jeux qui font ça, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et après, le truc, c'est moi, ce qui me gêne, c'est encore un puzzle platformer. J'ai l'impression qu'on en voit ressortir toutes les semaines, en fait. Donc,
ouais, on en a parlé d'un autre il n'y a pas longtemps, ouais, aussi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu à la mode aussi depuis que Talos Principle a aussi bien marché dans un style un peu différent, parce que c'est de la 3D, mais c'est vrai qu'on voit pas mal de jeux dans le style.
Après, ça me dérange pas. Hein. Par exemple, il y a un jeu dont je vous parlerai très bientôt qui s'appelle Ronin, qui dans son genre est un puzzle platformer aussi, sauf que là le concept de puzzle est assez différent, c'est-à-dire que le puzzle c'est plus comment tu vas tuer tes ennemis, tu vois, que le fait vraiment
juste d'avancer, d'avoir de des sortir énigmes, de tableau.
Et pour le coup, je trouve que le côté puzzle est très bien intégré au gameplay, alors que pour moi, le défaut de la plupart des puzzle platformers, en fait, c'est que vraiment, t'as deux phases, quoi. T'as le puzzle, puis t'as la plateforme, et les deux, en général, sont assez mal intégrés l'un à l'autre, quoi.
Ouais.
En tout cas, ça a l'air vraiment sympa, c'est un projet très solide. Je vous incite à aller voir la page Kickstarter, je vous mettrai ça en lien, le lien en commentaire. N'oubliez pas, hein, encore une fois, comme à chaque fois, Kickstarter, c'est pas de la précommande, blablabla.
À noter qu'il demande 40 000 livres. Oui, parce que le projet, ça doit être un projet anglais, visiblement. Il reste 26 jours et qu'ils en ont pour l'instant que 5 000. Alors, bon, c'est...
Ouais.
C'est, voilà, c'est, ça sent pas très bon, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'une fois qu'on en aura parlé, ça va exploser.
Ah oui.
Sûrement.
Grave. Bon, allez, on enchaîne sur une news qui va nous mettre colère à Game Info. Et c'est un nouveau concept, c'est le Dark Grind 6 mois après la sortie. Ce concept, on le doit à Elite Dangerous, le jeu de David Braben, hein. David Braben, je rappelle, donc Papa d'Elite, tout ça, bon, ils avaient lancé un Kickstarter, ils avaient été financés, ils ont sorti un jeu, ma foi, qui avait l'air plutôt sympa, en tout cas, ils ont eu de très bonnes
critiques.
Des
retours, oui, voilà, exactement, il y a eu de très bons retours sur le jeu, ouais.
Donc, écoute, moi, je veux bien, pourquoi pas, mais le souci, c'est que là, récemment, on a appris un truc via les forums du jeu, c'est que, ben, il y a eu un patch. Et les gens se sont rendu compte, mais je sais pas, c'est bizarre. Il y a certaines zones du jeu qui sont beaucoup moins belles. Genre les zones où il y a des astéroïdes, tu sais, avec des effets de fumée, tu vois, enfin de fumée de particules, enfin qui ont disparu, quoi. Enfin pas qui ont disparu, mais
oui, qui rendent
pas
pareil,
plus
ouais.
du tout pareil, et que du coup le jeu a l'air beaucoup moins beau. Et en fait, ça a été confirmé qu'il y a eu des modifications, quoi.
Voilà.
C'est-à-dire que le jeu a été modifié. Pour des optimisations. Si vous voyez pas lever les doigts là, mais bon, voilà. Et que en gros, ben le jeu, suite à ces optimisations, ben il est moins beau.
Voilà. Ça, on a optimisé d'un côté, on a baissé d'un autre. Alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Après, bon, je pense que tu vas aborder le point de la sortie console.
Bah oui, mais voilà, parce que disons que bizarrement, tu vois, le patch il arrive alors qu'il travaille sur la version Xbox One. Donc bon, les gens se disent que voilà, faut bien que le jeu il tourne sur console et que s'il y a le nivellement par le bas, quoi.
C'est ça.
Alors moi je sais pas, hein, très honnêtement j'en sais rien. Je veux pas m'avancer. Mais dans tous les cas, moi je suis désolé, il y a un concept sur PC qui s'appelle les options graphiques. Je sais pas si vous connaissez. Et ça permet justement, tu vois, d'activer, de désactiver certains effets, tout ça. Ou justement, tu vois, avec un stick, de dire, bon, un sticker, tu mets, bon, alors là, on le met en very high, là, on met en high, là, on met en low, tu vois, ça permet de régler, tu vois, l'intensité de l'effet, ce genre de choses. Et là, maintenant, je sais pas, de plus en plus sur PC, j'ai l'impression qu'on nous laisse même plus des options graphiques, tu vois, que on te dit des merdes de toi, quoi. C'est vraiment pas top, hein.
Non, c'est vraiment pas top. Non, bah, c'est un peu le point fort aussi du PC par rapport aux consoles. C'est que, bah, si t'as une super bécane, tu vas faire tourner ton jeu à fond et il va être magnifique. Et si c'est même plus le cas aujourd'hui, si on fait les mêmes jeux sur console et sur PC, c'est un peu dommage aussi, parce que c'est vrai que le PC a encore ça pour lui. C'est que, bah, ça s'ouvre à un grand public, parce que si t'as pas une super carte graphique, et bah, tu mets les options de ton jeu, si t'as vraiment envie d'y jouer au minimum, et tu vas quand même pouvoir y jouer, même si ça va être un peu moins joli, mais le jeu va rester le même à part le côté graphique. Et si par contre t'as une carte dernière génération, tu vas mettre le jeu à fond, tu vas en prendre plein la gueule, et voilà, quoi. Donc ouais, c'est un peu dommage si on en arrive là sur les versions PC des jeux. Voilà. Surtout si en plus c'est parce qu'il y a une sortie console de prévu et qu'on nivelle par le bas, ouais.
Voilà. Bon, en même temps, quelque part, j'ai pas grand chose à rajouter. Je dirais juste que c'est un phénomène que je vois de plus en plus, c'est que ça m'inquiète. Enfin, Je parle du fait que sur PC on a des options de plus en plus limitées une des fois qu'on va dans le menu, tu vois, on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut régler, que des fois même il faut aller dans le fichier .ini.
Oui, c'est ça, faut modifier à la main
pour modifier à la main, ce que je trouve totalement hallucinant, mais c'est une aberration absolue, quoi. J'ai l'impression que de plus en plus, en fait, ils ne savent pas développer sur PC. Je suis même pas sûr, tu vois, que ce soit volontaire, en fait, c'est ça le pire. Ouais. C'est que je me dis de plus en plus, c'est juste qu'ils savent pas faire des jeux sur PC, en fait. C'est tout.
Bah, peut-être, hein.
Enfin, voilà. C'est triste.
Un petit peu.
Alors, par contre, ce qui est moins triste, c'est l'arrivée d'une saga du JRPG très célèbre sur console. C'est la saga Tales of.
Qui va arriver sur Steam, donc, oui.
Alors, Tales of, il y a tellement de jeux dans cette série.
Oui, c'est vrai.
Personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est pas une saga pour laquelle j'ai un affect particulier, par contre. J'y avais juste sur Tales of Destiny, sur PlayStation, à l'époque, que j'avais bien aimé. Mais c'est pas une série, tu vois, qui m'attirait trop, je trouvais que c'était un peu, le FIFA du RPG, quoi, on va dire.
C'était dur, là.
Ouais, mais attends, ils en ont sorti tellement, putain.
C'est ça. Alors, je dis ça, mais je suis un peu dans le même cas que toi, c'est qu'en fait, bon, moi, je suis plutôt un joueur PlayStation, et j'en ai jamais eu un sur une PS. Par contre, j'ai eu une GameCube, et j'ai eu, le Tales of Symphonia, en fait, sur GameCube. Et qui, lui, j'avais passé un bon moment, c'est-à-dire que c'était un jeu de folie, mais j'avais quand même passé un bon moment, et par contre, c'est le seul Tales of que j'ai fait, donc preuve quand même que c'est pas non plus, voilà.
Tales of the Abyss aussi sur PlayStation 2, qui est vraiment très très bien.
Ah, mais il y en a sûrement qui sont bien, hein, mais c'est vrai que c'est pas une licence que j'ai beaucoup pratiquée non plus, ouais.
Disons que comme il est produit à un rythme industriel, la qualité varie d'un épisode à l'autre, quoi.
Ça peut être très différent, ouais.
Donc, il y a la dernière itération de la saga Tales of qui s'appelle Tales of Zestria, et qui est sortie en début d'année au Japon. Mm-hmm. Qui s'est planté au Japon, d'ailleurs. Mais pour une histoire assez obscure. Enfin, des fois, les Japonais sont assez curieux. Hein.
En fait, ils avaient fait un trailer où il y avait notamment un personnage féminin qui était vachement mis en avant, où on pensait que ça allait être plus ou moins l'héroïne du jeu. Et puis, on s'est aperçu qu'à la sortie du jeu, en fait, il n'y avait pas ce personnage et qu'il était proposé en DLC à 10€.
Voilà. Et je rappelle aussi que par exemple sur Orishika sur Vita qui s'est pris une volée de bois vert parce que il y avait un personnage qui était un peu mis en avant qui s'appelle Mueko qui est une espèce de déesse en fait qui est impliquée dans l'histoire et du coup comme Orishika c'est censé raconter l'histoire d'un clan en fait et pas d'un personnage en particulier. On va dire que ça va créer un scandale au Japon. Enfin bref, il y a des shitstorms qui se créent comme ça. Tu comprends pas trop pourquoi, mais bref. Comme il s'est planté au Japon, ils ont décidé de le sortir sur PC, visiblement. Surtout que bon, à mon avis, ils ont dû voir que Dark Souls se vendait bien sur PC. Oui, parce que je rappelle, Dark Souls 8 millions de ventes, 40% des ventes sur PC. Voilà. Hein, pour ceux qui disent que le PC est un marché mineur, tout ça. Enfin bref. Il y a de plus en plus de jeux japonais qui débarquent sur PC. Tales of en fait partie. Alors moi, jusque là, très bonne nouvelle. En plus, on apprend que il y a Tales of Symphonia, je crois, qui sera disponible pour ceux qui ont acheté Tales of Zestria, mais...
Voilà, mais il y a toujours... Mais, en fait, le jeu est en... Donc, Tales of Zestria est en préco sur Steam, parce que le jeu sortira le 20 octobre. Mm-hmm. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un système de récompense où si on arrive au dernier palier, alors on parle pas d'argent, là, c'est juste des paliers, il n'y a pas d'argent comme avec Kickstarter, on aura le Tales of Symphonia HD qui était ressorti, en fait, sur PS3 et PS4, il me semble, qui sera là aussi sur Steam, qui sera offert, donc... Mais bon, c'est un système de récompense, donc c'est pas sûr.
Voilà. Ok, d'accord, maintenant on a même les radios sur les précommandes. Bon, évidemment, hein, on vous conseille pas de précommander le jeu, hein.
Non.
Parce que, bon, déjà, c'est un jeu japonais, hein. Vu la qualité de certains portages de jeux japonais sur PC, on va attendre.
On va attendre voir ce que ça donne.
Ouais. Je vous rappelle, récemment, il y a eu Tukiden qui a fait de la merde sur PC. Dead or Alive 5, qui est une version downgradée de celle qui est sur console. Hein. Je veux dire, il y a plein de jeux japonais portés à l'arrache sur PC. Donc c'est typiquement le genre de truc où il vaut mieux se méfier. Donc,
exactement. Voilà. Et puis en fait, de toute façon, ici on n'est pas adepte de la précommande hein, de façon générale. D'autant plus, voilà, quand c'est une licence qui est pas un jeu PC à l'origine, pas une licence PC. Donc attendons de voir. Après, tant mieux si on est surpris. Ça pourra de nouveau faire découvrir à des joueurs européens des JRPG. Et ça, bon, ben, moi ça me plaît parce que c'est un peu ma came à l'origine, donc c'est intéressant. Ouais.
Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les studios japonais se remettent à faire du JRPG sur, enfin, j'allais pas dire console, mais c'est ça en fait, parce que bon, à la base, le JRPG c'est identifié comme RPG console quoi, quelque part, alors que RPG occidental, c'est identifié comme RPG PC, mais ça, depuis ces dernières années, on va dire que c'est un peu changé quoi, ce délire-là, mais en tout cas, ce serait bien que justement, avec ce support-là, les Japonais se disent que on peut se remettre à faire du JRPG et on va arrêter de faire du jeu mobile, quoi. C'est, ouais. C'est surtout ça.
Mais après, c'est compliqué parce que au Japon, le jeu mobile, c'est pour eux, c'est une source de revenus énorme. Donc, il faut qu'ils arrivent à combiner les deux, à se dire que pour les joueurs européens, ben, il y en a quand même qui aiment le JRPG un peu traditionnel. Même si c'est pas une majorité, mais c'est dur pour eux parce que le mobile au Japon c'est énorme en termes de revenus. Donc, mais bon, on en parlait dans le podcast de bilan l'année dernière où on disait que c'était bien parce que voilà, il y a de plus en plus de licences Jap qui arrivaient sur Steam, notamment avec les FF. Là, on a les Tales of qui arrivent. On a vu notamment le 3 qui a plein de jeux où, enfin, notamment il y avait écrit Play it first on PS4. Donc ça signifie probablement que ça va finir sur Steam aussi ce genre de jeu. Donc c'est bien.
Oui, parce que pour ceux qui connaissent pas Tales of, il faut bien se rendre compte que c'est une licence majeure du RPG japonais.
Ah, c'est une licence énorme, oui, il faut. C'est une licence qui est assez vieille en plus.
Une licence qui est assez vieille. En gros, là, en termes de licence majeure, il manque quoi? Il manque Dragon Quest, quoi.
Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a les Is aussi, toute la série des Is. Enfin, il y a beaucoup de jeux, ouais.
Et là, il y a les Legend of Heroes qui ont débarqué récemment. Vous voulez pas nous sortir les Suikoden non plus? Non. Non, excuse-moi, c'est un jeu Konami. Konami, c'est vrai que là, il faut plus en attendre grand-chose, malheureusement.
Malheureusement pour Suikoden, c'est fini.
Mais limite, tu vois, je préfère qu'ils n'y touchent plus, en fait.
Oui, des fois, il faut, comme on avait dit, faut laisser mourir les jeux. Ils ont eu leur vie, et puis voilà quoi.
Enfin bref, d'ailleurs, justement, à propos de Portal Blacklist. Warner Bros. Bon, alors, on se doutait que Warner Bros était au courant que Batman Arkham Knight sur PC était une purge, hein. Bon, sauf que, évidemment, ils l'ont nié, hein. Ils allaient pas dire, on savait qu'on a fait de la merde, hein, mais, voilà. Sauf que, malheureusement pour eux, il y a des langues qui se sont déliées. Il y a des employés qui ont parlé, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'affirme Kotaku. Je vous mettrai un lien. En gros, ce qu'ils racontaient, c'est que ils étaient complètement dépassés par le développement de Batman Arkham Knight. C'est-à-dire que, en gros, les versions consoles ont pris un temps fou à être développées. Et que, toute leur attention s'est focalisée là-dessus, qu'ils ont sous-traité la version PC. Et qu'il n'y avait pas assez de moyens qui ont été mis sur la version PC. Que, donc, l'éditeur était parfaitement au courant de l'état dans lequel est sorti le jeu. Mais qu'ils ont jugé que, bon, écoute, c'était bien de le sortir dans cet état-là.
Que les joueurs PC, allez vous faire foutre, on s'en fout.
Voilà. Non, mais en fait, ça montre bien qu'ils en ont strictement rien à foutre du marché sur PC, c'est tout.
Ils sortent quand même le jeu sur PC parce qu'aujourd'hui, il faut y être, mais ça passe après, pour certains studios, ça passe après le jeu console. Surtout que si on regarde tous les tests de ce Batman sur console, il a des super notes de partout, le jeu a pas de bug, enfin, c'est vraiment un super jeu. Et c'est, donc, comme tu l'as dit, voilà, c'est un jeu qui a pris pas mal de temps à développer et qui est pour un résultat qui est très bon. Mais par contre, voilà, la version PC a été bâclée et c'est dommage parce que après on peut comprendre qu'il y ait des petits bugs sur PC comme on l'a déjà dit ici. C'est plus facile de développer sur une console où l'architecture est unique que sur PC où toutes les archis sont différentes et il peut y avoir des bugs sur certaines plateformes et pas sur d'autres. Donc c'est un peu plus compliqué, des bugs mineurs à la sortie, ça se comprend. Et là, le jeu a été carrément retiré, donc on parle même plus de bug mineur, on parle de bug majeur qui empêche aux joueurs de jouer. Alors voilà, comme on disait sur les précommandes, moi je précommande pas, mais si je le fais et que je tombe sur un jeu comme ça, ça me rend fou quoi. Parce que si tu précommandes, c'est que tu veux y jouer dès sa sortie parce que c'est une licence que t'apprécies. Si t'arrives le jour, tu mets ton jeu, tu démarres ton jeu, c'est injouable, ça te fait chier.
Mais encore une fois, moi, je sais pas. Enfin, ils sont pas rendus compte que Steam avait mis un système de remboursement, non?
Oui, mais est-ce qu'ils acceptent le remboursement?
Ah, mais apparemment maintenant ils ont, tu sais,
ça a changé.
On avait parlé là, le truc comme quoi la clause qui disait que
c'est l'éditeur qui choisissait derrière.
Enfin, ouais, voilà. Bah justement, ça y est plus ça, par contre.
Ah, ils ont.
Et donc, du coup, j'ai l'impression que maintenant ça pique à tous les jeux. Mais enfin, c'est une impression. Hein, j'ai pas confirmé ou infirmé ça.
Oui, parce que là, c'est typiquement le cas où les mecs vont se faire rembourser. Quoi.
Là, sur ce jeu-là, je sais qu'il y a des gens qui se sont fait rembourser.
Ah, bah, en même temps, enfin, si le jeu est retiré de la vente, c'est qu'il y a des bugs. Il faut accepter de rembourser. Dans ce cas-là, il faut être rigolo aussi, quoi.
Oh non, mais de toute façon, le fait qu'il est retiré, c'est parce que les gens se sont fait rembourser. Ça, je crois faire ça. À mon avis, ils se sont pris un bad buzz auquel ils s'attendaient pas, quoi.
Mm-hmm.
Parce que ils avaient fait de la merde sur les précédents Batman.
Mais il y avait
et
pas
c'était
eu
un peu passé
retour,
comme une lettre à la poste, quoi. Mm-hmm. Bon, c'était pas à ce point-là, hein, mais oui. Voilà. Ça, plus le fait qu'en plus, on oublie une chose, c'est que ils avaient un partenariat avec Nvidia, quand même.
Oui, c'est un jeu qui était en bundle avec certaines cartes aussi.
À mon avis, Nvidia, ils ont pas dû apprécier, et ça, par contre, c'est un peu plus sérieux, c'est-à-dire que, enfin, voilà, quoi. Tu as un partenaire économique, où t'as conclu des accords, etc., où le jeu est censé tourner nickel sur la carte, et c'est une purge sur la carte.
Ça te fait pas de la bonne pub non plus, c'est sûr.
Ouais, non, mais même, enfin, je veux dire, il y a des accords industriels derrière, et tout, à mon avis, il doit y avoir des contrats, Nvidia, ils ont dû débarquer, ils ont dit,
Mais les gars.
Pas notre gueule un peu, là, non, ça va?
Ouais, c'est sûr.
Enfin, voilà, quoi. Bon, dans tous les cas, c'est un vrai foutage de gueule, c'est un scandale. Moi, j'invite vraiment tous les joueurs PC à tout simplement ne plus acheter de jeux Warner Bros. Voilà. Vous attendez la sortie des jeux, vous attendez de voir si les jeux tournent bien, et puis à ce moment-là, si ça tourne potablement, vous les achetez. Mais à un moment donné aussi, il faut que les joueurs se responsabilisent un peu. Hein.
Oui, on en avait parlé déjà à l'époque avec le Assassin's Creed. Si les gens achètent pas le jeu dès sa sortie, voilà, ça réglerait des problèmes, ça éviterait qu'ils sortent des jeux bâclés, etc. Le problème, c'est voilà, tant qu'il y aura des gens pour préco et pour acheter les jeux. Après, je peux le comprendre, il y a des gens qui sont fans de licence, donc. Je le comprends, moi je le fais pas, mais j'arrive à le comprendre.
Mais ça, moi je le comprends pas parce que je vois pas ce que ça t'apporte de précommander en fait. Si c'est pour avoir le DLC à la con, mais qu'est-ce que ça va changer dans ton expérience?
Ouais, pour toi, mais nous on est des vieux joueurs, on n'est pas habitués à ces DLC, tout ça, nous c'est, on s'en fout, ça nous passe un peu au-dessus, tout ça. Mais c'est vrai que là, pour la génération qui arrive aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est, ils aiment ça. Ça fait partie, c'est eux, c'est leur, enfin ils y sont tellement habitués, pour nous c'est scandaleux parce qu'à l'époque on n'avait pas tout, le jeu sortait, il était complet et on savait que quand on avait fini le jeu, on avait fini, voilà, si on le finissait à 100%, on n'allait pas nous rajouter dans un mois des nouvelles maps machin, on avait fini le jeu et on passait à autre chose quoi. Aujourd'hui c'est plus ce système là, donc c'est vrai que c'est. Mais bon, nous, on a du mal à comprendre.
Ouais, parce que autant je t'avoue qu'il y a des nouvelles habitudes que je peux comprendre, enfin que je comprends même parce que j'ai eu les mêmes à un moment donné, c'est-à-dire les mecs qui attendent, typiquement le mec qui attend les soldes, tu vois, bon, c'est un phénomène qui avait pas à une certaine époque, tu vois.
Mm-hmm.
Mais là, c'est logique, c'est les gens essayent de payer moins cher, tu vois, c'est
oui,
une logique qu'on peut comprendre, quoi, quelque part, c'est une logique purement financière. Mais le mec qui achète son jeu en précommande, ça j'avoue que j'ai, pour avoir le DLC, ça, j'avoue que c'est un phénomène que j'ai toujours eu du mal à saisir, tu vois. Enfin, encore à une époque, tu sais, où il y avait un phénomène de rareté, c'est-à-dire que l'époque où il y a un jeu, il sortait chez nous, tu vois, mais il sortait un nombre d'exemplaires très très limité, tu vois. Donc forcément, tu le précommandais parce que tu voulais ton exemplaire, quoi, quelque part. Parce que voilà, il y avait un nombre fini de jeux et il fallait que tu aies ton exemplaire à toi.
Mm.
Ça, je pouvais comprendre. Ça faisait sens quelque part. Mais là. Enfin, je veux dire, on est sur une plateforme des maths, il n'y a pas de phénomène de rareté, quoi.
Ah oui, non.
C'est même pas que je suis contre, c'est que je ne comprends pas comment, à quel moment un mec se dit, je vais précommander un jeu. Bon, tu me diras, moi, je finance bien des jeux sur Kickstarter, je suis sûr qu'il y a des gens qui comprennent pas.
Mais... Oui, voilà, c'est... Non, mais après, si t'es sûr que tu vas acheter un jeu, ça se trouve, le mec, il passe sur Steam, il voit que ce jeu, il sait qu'il va l'acheter tôt ou tard, il se dit, je l'achète maintenant parce que j'ai les thunes, je sais pas si je les aurai dans un mois, et puis le jour où il sort, il a pas à sortir de l'argent, il a déjà payé, il est content, quoi. C'est peut-être aussi ce phénomène-là. Après, pour qu'il y en ait autant, non, c'est difficilement compréhensible, je suis d'accord.
Enfin bref, voilà, arrêtez de faire des précommandes. Allez, on va parler maintenant de Sony, qui lance sa plateforme de crowdfunding. What? Non, vous foutez de ma gueule, là. Non, mais sérieusement, vous foutez de ma gueule. Ah non, c'est vrai, d'accord, ok.
Ce n'est pas une blague.
Là, je t'avoue, Ben, je sais pas trop quoi dire, parce que, bon, je suis un peu abasourdi, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'on a un constructeur qui nous sort une plateforme pour tester le marché. J'en vois certains déjà carrés qui vont dire « On vous a prévenu », et ils avaient raison.
Oui.
C'est-à-dire que à force d'accepter que les studios utilisent Kickstarter pour tester le marché, eh ben les éditeurs ils sont pas cons et ils voient que ça marche.
Ils auraient tort de s'en priver si ça marche.
Alors pour le moment la plateforme elle est limitée au Japon.
Et voilà, c'est pas pour crowdfunder des jeux. Pour l'instant c'est plus il y a une montre, enfin c'est plus des objets connectés, ce genre de choses qui testent. Pour l'instant c'est pas pour financer des jeux, etc.
Mais ça va venir.
Voilà, exactement. C'est toujours pareil, comme tu dis, là, ils testent le marché, s'ils voient que là que ça marche, ben, un jour, ils essaieront de passer un jeu dedans, si ça marche, ils continueront, etc., quoi.
Donc, en gros, on a un fabricant de produits, tu vois, qui nous dit, alors, je sais, normalement, mon rôle, c'est de prendre des risques commerciaux, tu vois, enfin, de, c'est un peu mon boulot, quoi, quelque part, mais, si vous pouviez faire mon boulot à ma place, et en plus me rapporter de l'argent, ça serait cool, quoi.
Ouais. C'est un peu, on veut tout, c'est...
On veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, voilà, non mais c'est très bien, hein.
Et bon, puis c'est normal en plus.
En tout cas, le jour où ça arrivera chez nous, j'espère que les gens ne souscriront pas à ça. Parce que moi, encore une fois, hein, je le répète, mais pour moi, la seule chose qui justifie le financement participatif, c'est le fait de squeezer les éditeurs. Voilà, c'est tout. Si les éditeurs ils entrent dans la boucle, moi je suis désolé, je finance plus les jeux. Hein.
Ouais.
Il y a un moment donné, je vous assure que si vraiment la dérive part trop loin, ici on parlera plus de Kickstarter, etc. C'est une démarche que j'ai envie de soutenir. Mais à un moment donné, le fait que cette démarche soit totalement pervertie par un certain nombre de studios et d'éditeurs, pour moi c'est plus acceptable, quoi.
Bah là ça va trop loin, quoi. Mmh. C'est... Déjà, on l'a vu avec Kickstarter, par rapport à quand c'est sorti, enfin, ou au début de Kickstarter, où il y avait vraiment des gros trucs financés. Aujourd'hui, il y en a toujours. Mais avec tous les déboires qu'il y a eu, déjà, on voit que ça baisse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de Kickstarter un jeu. Mmh. Et parce qu'il y a eu des dérives négatives. Et puis, si on en arrive là, enfin, après, c'est un peu n'importe quoi, du coup. Dans pas longtemps, c'est les éditeurs de jeux qui vont demander de kickstarter leur nouveau moteur parce qu'ils veulent que les gens payent, disant, bah, tiens, vous faites nos nouveaux moteurs, on fera nos nouveaux jeux avec, et puis voilà, quoi, c'est, pourquoi pas, hein, on est arrivé là.
En plus, moi, je te dis, il y a moyen que ça marche diablement dans le milieu du jeu vidéo, hein, parce que, regarde, les kickstarters qui ont vraiment très très bien marché, quoi. À part Oculus Rift, bon, qui est un peu un cas à part.
Oui, c'est pas, ouais.
Tout le reste, c'est des projets de fanboy, quoi. Je fais partie de ça, hein. C'est-à-dire que Pillars of Eternity, je l'ai financé parce que c'était Chris Avellon, voilà. Chris Avellon, c'est mon dieu, mon maître, etc. Voilà.
Westland,
le projet d'Igarashi, Shenmue, dont on va parler après. Ouais, d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite sur Shenmue, en fait.
Ouais.
Alors, pourquoi on parle de Shenmue cette semaine encore?
Encore.
Parce que il y a eu une news qui est tombée cette semaine. Alors c'est une news des petits gars d'un drop dans la mare. Alors un drop dans la mare, pour ceux qui connaissent pas, ils avaient annoncé notamment la fermeture de jeuxvideo.fr avant tout le monde.
Oui, généralement ils disent pas trop de conneries.
Jeuxvideo.com, le déménagement, ils en avaient parlé avant tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à les croire. Alors après, je précise. Moi, la news qui suit...
Ils citent pas leurs sources.
Ils citent pas leurs sources, voilà. Bon, donc, en même temps, j'imagine que s'il y a des mecs qui ont parlé...
Oui, ils vont pas non plus les balancer.
Voilà. Ils veulent pas gâcher leur carrière professionnelle, je pense. Voilà. Mais, dans tous les cas, moi, c'est un groupe de personnes à qui j'ai tendance à accorder un certain crédit.
Voilà. Oui, voilà, on va plus faire confiance à eux qu'à d'autres types qui auraient balancé la même vidéo sur YouTube, etc., quoi.
Bon, on était tous au courant, hein, c'est pas avec 10 millions de dollars qu'ils vont faire un open world.
Ça, on le savait.
Ça, depuis le début, on le sait, hein. Je veux dire, les deux premiers jeux, ils ont coûté 47 millions, hein. C'est 47 millions de dollars de l'époque. Depuis, il y a eu l'inflation, hein. C'est ça que les gens oublient, hein, quand ils disent, oui, mais les deux, ils ont coûté 47 millions à l'époque. Oui, mais il y a l'inflation entre temps, hein.
Oui, c'est une autre époque.
Voilà. Un open world à la chaîne, nous, c'est pas un open world comme aujourd'hui, hein. C'est pas The Witcher 3, on est d'accord. Mais même, ça a un coût quand même, quoi.
Oui, bien sûr.
Et puis, bon, on se dit que quand même, c'est bizarre, tu vois, J'imagine bien, tu vois, Yu Suzuki, qui aurait revu son ambition à la baisse, etc. Et puis tu te dis, mais en plus, s'il récolte que 5 millions de dollars, ce qui est bien parti pour... Enfin, ils vont récolter 6, hein, moi je pense, hein, un truc comme ça.
Ouais.
En tout cas, 10, j'y crois pas du tout pour le moment. S'il récolte pas beaucoup d'argent, faut bien qu'il y ait un investisseur derrière, parce que c'est pas avec 6 millions de dollars qu'ils vont faire un jeu potable. Hein.
Voilà. Sachant que, a priori, Sony avait démenti le fait de participer financièrement au projet.
Voilà. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est que moi, à la limite, tu vois, qui fasse ça, très bien. Enfin, il y a des Kickstarter qui l'ont déjà fait. Mais il faut une certaine transparence, tu vois. C'est-à-dire qu'on dit, oui, on a Sony derrière nous. Point. Alors, pourquoi? Parce que là, ce qui est dit, en gros, par un drop dans la mare, c'est que le jeu, en gros, il est financé à 20 millions de dollars par Sony, 20 millions de dollars par Shibuya Productions.
30 millions même par Shibuya. Alors Shibuya, en fait, qui est a priori, ça serait même eux presque à l'origine du projet.
Oui, oui, non, mais c'est eux, puisque c'est eux qui chapotent tout le projet.
Voilà, et qui aurait contacté Sony en disant, ben nous, on met 30 millions sur la table pour refaire Shenmue. Combien vous êtes prêts à mettre? En gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi?
Il y a donc Sony, il y a un troisième acteur, je crois.
Notre studio qui mettrait 30 millions en plus, c'est Ketchup, ça s'appelle.
Voilà, Ketchup, donc c'est un truc français.
Donc là déjà on en arrive à, si Sony met bien les 20 millions, et on arrive déjà à 80 millions. Hein. Plus le Kickstarter, mais bon, si comme tu dis ils prennent 6 millions, ça va être pour faire en gros la pub du jeu et voilà quoi.
En tout cas c'est ce qu'affirme un groupe dans la mare. Mmh. Bon, très bien. Je sais pas, je suis seul à trouver ça scandaleux ou
c'est toujours pareil, ça manque de transparence, parce que qui disent on fait un Kickstarter pour telle et telle raison et voilà, mais dites-le clairement que Sony va aider à financer le jeu, etc. Et en plus, je pense que ça pourrait rassurer certains joueurs de se dire il y a Sony derrière et tout, le jeu va sortir, on peut mettre de l'argent dans le Kickstarter si on aime le projet, c'est pas un truc qui va se casser la gueule, etc. quoi.
Non mais en plus, très honnêtement, hein, autant sur d'autres campagne de crowdfunding, je pense que les gens gueuleraient, tu vois.
Ouais, là, c'est du fan service.
En tout cas, parmi ceux qui soutiennent le crowdfunding, il y en a quand même pas mal qui pensent que ça permet de squeezer les éditeurs. J'en fais partie. Voilà. Donc, le fait de voir les éditeurs dans la boucle, bon, ça a fait un peu grincer les dents.
Mmh.
Mais, honnêtement, je pense que la plupart des fans de chez nous, ils en ont rien à battre. Même si c'est une bonne nouvelle, tu vois.
Oui.
Donc bon, à un moment donné, faut être transparent, quoi. Et surtout, le fait de mentir aux gens, parce que c'est ça finalement ce qui se passe, c'est que si ce qu'affirme un drone dans la mare est vrai, ça veut dire que Sony, Shibuya Productions et compagnie, ils ont menti. Parce qu'en plus, ça a été démenti par Ketchup Games derrière, où on dit « oui, non, non, on n'a rien à voir dans cette histoire », etc. Enfin bref. Enfin, moi, je trouve ça mais totalement malhonnête. Et c'est encore une fois un de ces trucs, tu vois, qui te fait dire autour de ces campagnes, ça pue la merde, toi.
Bah oui, oui.
Très honnêtement, il n'y aurait pas Shenmue sur la jaquette. Jaquette qui est passablement moche au passage, hein, je précise. Hein, parce qu'ils ont annoncé l'arrivée dans les pledges des versions boîtes sur console, mm-hmm. avec une jaquette absolument hideuse. Enfin bref, voilà.
Non mais bon, vous en avez déjà parlé avec ATH. Le projet, ça s'appellerait pas Shenmue. Il ne serait pas kickstarté, moi j'en suis persuadé.
Mm-hmm.
C'est pas plus compliqué que ça, hein. Aujourd'hui, c'est le fan service. Alors oui, comme tu as dit tout à l'heure, Kickstarter, ça marche aussi beaucoup au fan service. On voit la moitié des projets, ils essaient toujours d'inclure un nom de quelqu'un d'un peu connu parce que ils savent que ça va ramener du monde, etc. Là, c'est carrément le jeu qui était une arlésienne. Donc c'est ça qui fait qu'il va se financer. Mais le Kickstarter en lui-même est dégueulasse, hein. Faut dire ce qui est.
Vous avez été prévenu, hein. Je vais pas répéter ce que je répète depuis des semaines sur Kickstarter de Shenmue. Je sais que la plupart des gens qui financent ce Kickstarter, on en a rien à foutre, hein. Pour eux, c'est vraiment une bonne nouvelle, je pense, même, à la limite. Limite, je pense qu'ils sont en train de prier pour que c'est vrai, tu vois. Je pense, hein. Donc, bon, mais moi, ça sert à quoi d'avoir des éditeurs si c'est nous qui prenons tous les risques, quoi, quelque part. On est là pour tester, on est là pour mesurer l'intérêt du marché, quoi. Enfin, c'est...
Ouais.
Enfin, bref. Ben, on va terminer sur la collectionniste.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu es intéressé par l'achat d'un prototype de PlayStation?
Intéressé, pourquoi pas, mais si c'est un vrai prototype, je pense que je n'aurais pas les moyens.
Bon, parce que, en tout cas, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que, apparemment, il y a un gars qui est arrivé, qui a montré une photo. Alors, vous voyez, ça, c'est le prototype que Sony avait fait pour la PlayStation. à l'époque, enfin quand ils avaient présenté le projet à Nintendo, quoi. Alors moi je ne sais toujours pas si c'est un fake. Non. Donc si c'est un fake, si il est bien fait, hein, parce que.
Bah en fait on dirait un peu une Super NES avec un lecteur CD et une manette par contre qui est exactement celle de la Super NES, avec écrit Sony PlayStation dessus, quoi.
Voilà.
Et c'est vrai que si on regarde, en fait, si on regarde pas ce qu'il y a écrit, on dirait que c'est un mec qui a un peu modifié une Super NES ou un truc comme ça, quoi.
Ouais, mais d'un côté, tu vois, le plastique il est jauni, ce qui est typique. Ouais,
par contre, ça fait super naturel. Alors, on peut vraiment, oui, se poser la question de savoir si c'est un vrai proto. Ouais.
Donc, dans tous les cas, c'est pas vraiment ça dont on veut vous parler, parce que finalement, je veux dire, on n'a pas grand-chose à en dire, oui. Si ce n'est que. Ah, le jeu, si c'est vrai, et qu'il met ça aux enchères, mais je suis sûr que...
Ah, mais ça va exploser.
La vente aux enchères, ça va exploser. Parce que moi, il y a un phénomène que je constate, enfin, ça existe, hein, depuis l'ère de la PlayStation, hein, ce phénomène, hein, mais je le constate de plus en plus cette année avec la disparition du support matérialisé. C'est-à-dire que les vieilles consoles, où il y a encore cet attachement à l'objet, c'est limite de l'art, quoi, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, il y a certains jeux, tu vois, certains supports, pour les trouver à un prix décent, mais c'est la folie, quoi.
Ah oui,
notamment, je vois ma collection de jeux Saturn, je suis sûr, demain, je la revends, je me fais une petite fortune avec ça.
Ah bah oui, il suffit d'aller sur eBay ou Leboncoin et chercher des jeux un peu old school. Vous allez vous rendre compte que des fois, vous les payez plus cher que des jeux récents. Alors, s'ils sont en version boîte, etc., c'est...
Alors Ben, est-ce que toi tu as cet attachement à l'objet déjà ?
Ben j'ai un certain attachement avec mes anciennes consoles, parce que notamment avec ma PS1, parce que c'est elle qui m'a vraiment fait découvrir le jeu vidéo. J'ai eu une Mega Drive avant, mais bon, c'est avec la PS1 et FF7 notamment que j'ai découvert tout ça. Et j'ai gardé toutes mes consoles depuis. Enfin toutes mes consoles.
Comme moi.
Voilà, c'est ben en fait, c'est toujours pareil. On achète une console, 5-6 ans après, il y a une nouvelle génération qui sort, on va la revendre une misère. Donc moi j'ai toujours préféré les garder. Donc aujourd'hui, j'ai les 4 PlayStation, j'ai une Super NES et une Mega Drive à la maison, ouais.
Voilà. Mais par contre, est-ce que tu as un attachement tel que tu serais prêt, je sais pas, par exemple à mettre plus de 100 euros dans un jeu, quoi?
Non, par contre, voilà, je vais pas jusque là. J'ai un attachement aux jeux que j'ai eu, en fait. C'est-à-dire, voilà, parce que j'ai des souvenirs avec certains jeux, avec certaines consoles, même si je les ressors pas souvent, mais voilà, je sais que j'ai une Super NES à la maison quand j'ai des potes, des fois, de ma génération, donc moi, je vais avoir 30 ans, pour situer un peu. Quand j'ai des potes qui viennent, c'est sympa de se faire une petite partie de Mario Kart, des choses comme ça. Donc, j'ai un attachement parce que voilà, j'ai un affect avec ces jeux. Mais par contre, voilà, je suis pas prêt aujourd'hui à acheter une version boîte d'un vieux jeu à une centaine d'euros, quoi.
Et encore une centaine d'euros.
Oui, c'est.
Parce que je me rappelle, par exemple, tu vois, moi j'aime beaucoup la Saturn. Et déjà, il y a 10-15 ans, un Panzer Dragoon Saga sur cette console, ça se vendait quoi ? 150 euros ? Déjà à l'époque. Hein.
Oui.
Donc, j'ose même pas regarder les prix aujourd'hui, hein, parce que je suis sûr que ça a explosé. Enfin, moi je sais pas, j'ai. À une époque, en fait, si tu veux, j'ai eu cette folie un peu. Par exemple, Valkyrie Profile, je l'ai payé 90 euros
ouais.
À une époque. Mais c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 10-15 ans, enfin voilà. Enfin, 10 ans, pour être précis. Parce que, voilà, c'était l'un des... Bon, tu me diras, il y avait l'émulation sur PC, mais j'avais pas un PC assez performant, etc. Mais quelque part, j'avais vraiment envie de jouer à ce jeu, quoi. Enfin vraiment, c'était un jeu auquel je voulais vraiment jouer parce que j'avais vu les tests, etc. Enfin,
oui, c'est...
enfin voilà, c'est des... et puis il importe à l'époque les mecs ils faisaient des couillons d'or là-dessus. Enfin,
ouais.
République, c'était c'était l'âge d'or de République là. Et les mecs, la mafia là-bas, c'était un truc mais hallucinant quoi. Les mecs, t'allais dans les magasins, ils importaient les jeux mais ils faisaient une marge dessus, c'était complètement hallucinant. Donc bon. Je pouvais encore comprendre à cette époque-là parce que bon, il y avait vraiment le fait que tu pouvais pas te procurer les jeux, tu vois, et que ben si tu voulais y jouer, il fallait payer, fallait passer à la caisse quoi, quelque part. Mais là, aujourd'hui, au jour de l'émulation, franchement, je comprends pas cet attachement à l'objet en fait, parce que c'est vraiment l'attachement pur à l'objet quoi. C'est-à-dire que les mecs pour avoir la version originale sous blister, si possible, hein, ça c'est le truc qui me fait halluciner, sous blister, ils sont prêts à claquer 200 balles, quoi.
Ouais, c'est comme tu dis, c'est de la collectionnite, comme les gens qui collectionnent les timbres, etc. On peut se dire que ça a pas d'intérêt, mais c'est vraiment un phénomène de collectionnite. Alors, moi quand même, j'arrive à comprendre, alors je suis pas prêt à mettre des grosses sommes, mais moi c'est vrai que voilà, j'ai commencé vraiment le jeu vidéo et les JRPG à l'époque de la PS1, et c'est vrai qu'à l'époque je devais avoir entre 10 et 15 ans, donc j'avais pas de revenus, donc j'ai eu pas mal de jeux verbatim. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des jeux, ça me fait un peu chier en fait de les avoir en version, donc en version gravée, et pas d'avoir les versions originales, quoi. Notamment Suikoden. Alors que lui, j'ai racheté parce que c'est un jeu auquel je suis vachement attaché et qu'en plus, voilà, les CD gravés, ça se dégrade, etc.
Ah, par contre, j'avais trouvé casqué, hein. Putain. Vous...
Ben pas tant que ça en fait. Moi, bon, je l'ai pas. C'était une version boîte, mais il y avait pas le livret, etc. Enfin, je l'avais chopé sur un mec sur le Bon Coin qui devait pas trop connaître. Il avait toute une série de jeux. Enfin voilà. Oui, et c'est encore l'époque où il y avait moyen de faire des affaires où les gens savaient pas que ça se revendait bien. Donc j'avais réussi à le rechoper. Mais c'est vrai que voilà, il y a certains jeux comme ça. FF7 à l'époque, moi, bon, je l'avais eu la version boîte, mais c'est typiquement le jeu que j'aurais pu racheter parce que voilà, c'est des jeux. Il y en a pas énormément, mais il y en a vraiment avec lesquels j'ai un affect super important. Voilà, Suikoden 2, les FF7, il y a quelques jeux comme ça que j'ai envie d'avoir en boîte parce que ça me rappelle des souvenirs, etc. Après, aujourd'hui, tu me dis mon FF7 il marche plus, faut mettre 100€ dedans, je les mets pas. C'est sûr.
Non, parce que si tu veux, le souci que j'ai là-dedans, c'est que on a beau dire ce qu'on veut, quand t'as des jeux qui ont été conçus pour s'afficher sur une télé cathodique et pas sur une télé HD. Quand tu les lances sur un émulateur, ça se boit. Ben, voilà. À part les jeux plus ou moins récents en 3D, par exemple, les jeux GameCube rendent magnifiquement sur émulateur. Franchement, enfin, c'est, y a pas à hésiter, quoi. Foncez, allez-y, c'est vraiment très très beau. Mais par contre, tu vois, il y a certains jeux PlayStation, notamment parmi les premiers.
Ah oui.
Alors, t'as beau avoir de l'anti-aliasing, etc., ça reste une purge à regarder sur une télé HD. Surtout que ces jeux ont vraiment été conçus pour profiter, si tu veux, de l'affichage sur un moniteur CRT. Parce que je rappelle, un moniteur CRT, tu sais, t'as les lignes qui scannent sur l'ordi, enfin l'écran, tu vois, et ça fait qu'il y a un affichage particulier, quoi, sur un CRT, quoi. Ça rend pas pareil. Et du coup, moi, je comprends, tu vois, qu'un mec, par exemple, ait envie de retrouver cette expérience-là, quoi, qu'il n'ait pas envie de jouer sur un émulateur. Ouais. Et ce qui me fait chier, tu vois, c'est que, avec toute la spéculation qu'il y a maintenant sur ce marché-là, parce que finalement, c'est limite, c'est le marché de l'art, tu vois. Et du coup, les mecs qui veulent les jeux pour vraiment y jouer, et pas juste les avoir sous blister, tu vois, entre guillemets, bah, ces mecs-là, ils n'y ont pas accès, quoi. Parce que finalement c'est devenu tellement cher que le vrai passionné rétro, si tu veux, ben
ah ben ça, le problème c'est que ça a pas, voilà, déjà que certains jeux ont pas super bien vieilli, si en plus avec les, voilà, les équipements comme tu dis, ça passe encore moins bien, c'est super compliqué. Parce que moi je suis grand fan de FF7 aujourd'hui, si tu le relances sur une télé HD sur la PlayStation, c'est déjà que ça, à l'époque il piquait, aujourd'hui ça pique encore plus, quoi.
Autant Chrono Cross, tu vois, ça passe à peu près parce que le jeu était super propre. Enfin, c'est là que tu vois la magie de la modélisation sur ce jeu. Quand tu le mets sur un émulateur, tu te rends compte que la modélisation sur Chrono Cross, elle défonce, quoi.
Ouais.
Mais il y a des jeux comme ça, FF7.
FF7, c'est super compliqué. Et je, enfin, ça pousse aujourd'hui. Moi, je dis à quelqu'un qui a 15 ans, vas-y, joue à FF7, c'est énorme. Il va me dire, il va le lancer, il va me dire, c'est quoi cette merde? C'est, tu vois rien, ils sont tout carrés. Enfin, c'est pire. Déjà que le jeu, à l'époque, on le trouvait joli, mais voilà, on sait tous comment il a vieilli. Aujourd'hui, c'est injouable.
Alors, contrairement à Final Fantasy IX, tu vois, qui, lui, pour le coup, enfin, la modélisation de Jidan, etc. Enfin, c'est magnifique. Hein,
oui, bah après, c'est voilà, c'est aussi un problème d'époque. FF7, c'est le début de la PlayStation. FF9, c'est arrivé quelques années plus tard.
Mais est-ce que toi, tu, du coup, t'es pas mal rétro, toi. Est-ce que t'as le temps déjà?
le temps, non. Bah, le problème que j'ai, c'est que moi, je suis JRPG. Donc, JRPG rétro, c'est compliqué. Parce que il y a quand même, voilà, je joue à des jeux récents et c'est en plus je me mets à jouer à des JRPG rétro, j'ai plus de temps. Mais c'est vrai que c'est un truc, si j'avais le temps, je me régalerais de refaire ces jeux, quoi. Ça, j'en suis persuadé. Bah, de toute façon, enfin, Là, j'ai racheté Suikoden 2 sur ma PS Vita, parce que typiquement, c'est la PS Vita, je peux l'amener, donc c'est le genre de jeu. Puis comme je le connais, en fait, je peux me permettre d'y jouer une demi-heure de temps en temps, et puis de le reprendre plus tard, je connais l'histoire, etc. Donc c'est un peu différent. Mais aujourd'hui, ouais, c'est difficile, avec mon emploi du temps, etc., à concilier et du jeu rétro et du jeu récent. Voilà, c'est... Mais c'est quelque chose qui m'attire. Moi, je suis pas trop regardant, en fait, sur la qualité des graphismes avec certains jeux. Donc, s'il y a le gameplay qui m'accroche, l'histoire, etc., même si le jeu est moche, ça va pas me déranger.
Moi, j'avoue, c'est pour ça que j'ai du mal à me passer des émulateurs quand même, parce que typiquement, tu vois, autant les graphismes Dreamcast, par exemple, ça passe très bien encore aujourd'hui, je trouve. C'est une console qui est vraiment très très propre en termes d'affichage, quoi. Autant la PlayStation.
Ah, la PlayStation, ça pique aujourd'hui, ouais.
Ah, putain. Faut dire ce qu'il y a. Non, mais par exemple, tu vois, tu sais, c'est un truc qui est spécifique à la PlayStation, mais tu sais, les premiers jeux 3D là où sur PlayStation t'avais des morceaux de pixels qui disparaissaient, tu vois, enfin c'était vraiment très chelou, c'est horrible à voir, quoi. Aujourd'hui c'est là que tu dis, mais putain, comment on a pu, les gens à l'époque ont pu laisser la 2D pour jouer à ça, quoi, franchement. C'est moche, putain. Et quand tu vois tous les jeux 2D magnifiques qui sortaient à l'époque, tu fais putain. Et les gens préféraient la 3D, quoi. C'est oh là là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter, en fait, parce que là ça devient le podcast des vieux cons là. Enfin bref.
Non, mais c'est dommage. Alors après, voilà, c'est ce qu'on pour revenir au sujet tout à l'heure de Steam. C'est bien aussi que du coup il y ait des jeux qui ressortent un peu plus HD. Voilà, parce que bon, après moi j'ai pas testé par exemple le FF7 sur PC, la version HD, mais je pense qu'ils l'ont un peu amélioré quand même. C'est peut-être un peu plus jouable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, jouer sur une ancienne console avec un écran récent, c'est super difficile.
Bah, tu vois, moi c'est pour ça que je suis favorable aux versions HD, mais justement, moi mon problème, c'est que la plupart du temps, en fait, les soi-disant versions HD, c'est une vieille version sur émulateur, tu vois.
Oui, voilà, après savoir comment est la HD.
Qui est gratuit, il fait mieux, tu vois. Enfin, c'est ça mon gros souci, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sûr que si un jour il sort Chrono Cross sur PC, la version émulateur, elle sera mieux, parce que sur la version émulateur, t'as la version cel shading de Chrono Cross, tu vois.
Eh oui, c'est sûr.
Et moi, mon problème, c'est que les mecs, au lieu de se sortir un peu les doigts, tu vois, et de faire une vraie version HD, c'est-à-dire qu'on te refait les décors précalculés, avec la techno d'aujourd'hui, tu vois, mais pas forcément plus faire un jeu en 3D, vraiment faire les décors en précalque, refaire les modèles des personnages, etc. Aujourd'hui, t'as le portage facile qui coûte pas cher, qu'on te vend à prix fort, enfin voilà.
Voilà, quoi. Ce que j'allais dire, j'ai pas les chiffres de vente, par exemple, des anciens FF sur Steam, mais je crois que ça marche pas trop mal. Mais c'est, en fait, les jeux qui ressortent comme ça, c'est des jeux vachement fin de service. Donc les gens, en fait, ils vont presque même pas regarder. Moi, le premier, j'ai racheté Suikoden sur PS Vita parce que je trouvais ça sympa. Bon, après, je l'ai payé 5€, je crois, donc c'est ridicule, mais je trouvais ça sympa, en fait, de racheter un vieux jeu comme ça, de pouvoir y rejouer un peu de temps en temps, etc. Donc c'est vachement de fan service et les gens sont beaucoup moins regardants. C'est dommage, hein, mais voilà, la version, je pense que voilà, les FF version PC, comme tu dis, c'est pas, ils ont repris le jeu un peu émulé, ils ont fait 3 modifs, et puis voilà, quoi. Allez, vas-y, on t'envoie ça sur Steam, on vend ça à 15€, on se fait vachement de ventes et on n'en parle plus.
Parce que pour prendre l'exemple de Final Fantasy VII, moi j'ai vraiment l'impression que les fans se préoccupent plus des jeux que les studios qu'ils ont fait à l'origine, quoi. C'est-à-dire que Final Fantasy VII, tu regardes, il y a un patch qui est arrivé, qui corrige la traduction française après 7 ans de développement, tu vois. Les mecs, pendant 7 ans, ils ont bossé sur la traduction, à partir de la traduction, enfin, de la version originale japonaise. Ils ont refait entièrement la traduction. Et aujourd'hui, on a enfin une version française potable, quoi. Parce qu'il faut bien voir que Final Fantasy VII, au jour d'aujourd'hui, enfin, avant cette traduction-là, c'était une purge, quoi, la version française. Il y a des passages qui n'ont aucun sens.
Exactement.
En français.
Moi, à l'époque, je l'avais fait, donc je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans. Tu t'en rends pas compte. Mais quand tu repasses aujourd'hui dessus, tu dis, mais il y a des incohérences parce que la traduction a pas été bien faite, etc., quoi. Et tu découvres des choses que t'avais pas compris à l'époque, parce que la traduction était pourrie. Et heureusement, comme tu dis, qu'il y a des fans qui ont fait ça. Et puis, il suffit de regarder FF7 si vous voulez y jouer sur PC. Il y a des mecs qui ont fait des mods, il y avait des textures HD, etc. C'est génial, quoi. Et tu vas pas me dire que, bah, de toute façon, on en revient au même. Est-ce que le studio pouvait pas faire ça? C'est toujours pareil, hein.
Non, mais en plus, tu vois, Square Enix, ils te sortent une version HD. Moi, c'est vraiment ça qui me chagrine. Enfin, qu'ils aient pas touché au graphisme. Admettons. Mais putain, la traduction, quoi, les mecs. La traduction, ah bah oui. Quoi. On comprend rien à votre histoire.
En plus, c'est vraiment dommage, parce que comme disait, nous, en tant que vieux joueurs, on connaît, on a déjà fait le jeu, etc. Mais si un jeune d'aujourd'hui le fait, bah, tu t'accroches beaucoup moins au truc, quoi.
Oui, forcément. Plus, enfin... Moi, je sais pas, les studios ne savent pas entretenir, j'ai l'impression, l'aura de leur licence, quoi. C'est-à-dire bah, en fait,
avec les grosses licences comme ça, on dirait qu'ils en ont même pas besoin, en fait. Il y a tellement une fanbase énorme que, qu'on dirait qu'ils s'en foutent. Ils laissent le jeu, entre guillemets, à la dérive. Il y a des mecs qui vont faire des mods pour améliorer, et puis eux, voilà, ils vont le ressortir, ça va se vendre un peu. Et tout le monde est presque content au final.
En fait, la seule série, j'ai l'impression, qui a été à peu près bien traitée à ce niveau-là, c'est Dragon Quest.
Bah ouais, moi je suis pas fan de cette série, je la connais pas trop.
Bah moi, si tu veux, après, bon, j'en ai joué à 4 ou 5, tu vois, enfin, je suis pas non plus un super adepte de la série, mais à chaque fois, tu vois, qu'ils ont ressorti les jeux, il y avait eu un retravail sur les graphismes, etc., enfin, ils se foutaient pas de la gueule du monde, quoi. Et c'est vraiment la seule série où il y a ça, quoi. J'ai l'impression que c'est l'héritage Enix, quelque part, qui subissent là-dedans, mais... Par contre, tout le reste, c'est du jeu m'en foutisme, quoi. Mais vraiment, quoi.
Et en plus, on dirait que quand ils sortent, ils disent, oh, bah, tiens, on vous fait plaisir, on vous ressort une version HD de FF7, tout le monde va être content, puis non. En fait.
Enfin, mais... voilà. Bon, je te propose qu'on s'arrête là, mon cher Ben.
Ouais, ouais. C'était... On a assez fait nos vieux cons, le podcast du vieux con.
Voilà, c'était l'instant vieux con. Oui, podcast assez court cette semaine, mais vous inquiétez pas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'aurai un jeu dont je veux absolument vous parler, donc il s'appelle Ronin. J'hésitais à vous en parler cette semaine, mais si vous voulez, en fait, comme je n'y ai joué qu'à la version Early Access et qu'il est sorti récemment, je préfère voir avant... quelle différence il y a entre la version qui est sortie là et pour voir si ça vaut le coup, tu vois, que je refasse les niveaux pour voir si ce qu'ils ont ajouté, etc., tu vois.
Ouais.
Je vous en parlerai la semaine prochaine, dans tous les cas. Ben, je sais pas si tu seras là la semaine prochaine.
Je sais pas, après, je dirais que oui, mais bon, on sait jamais.
Dans tous les cas, on espère qu'ATH sera parmi nous, parce que il devait être là aujourd'hui, mais il a disparu. Je vous cache pas, d'ailleurs, on va lancer une alerte enlèvement, hein. Donc, si vous avez vu ATH, signalez-le nous. Après, la semaine prochaine, je sais pas si on fera un podcast actu. Parce que, comme vous en avez probablement rendu compte, le podcast de cette semaine est assez court. Et si assez court, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a pas beaucoup d'actu.
Ouais, l'été qui arrive, c'est un peu mort, ouais, le jeu vidéo.
Très mais honnêtement, non. Je pense que en août, on va faire une pause. Parce qu'il faut savoir déjà que ATH n'est pas là en août. Et comme ATH est le principal pourvoyeur de news, ici, et donc, ceux qui m'accompagnent quasiment à chaque fois, on va dire que voilà, comme je m'enraîne, je sais pas trop ses dispos. Ben, bon, il a pas mal de choses à faire chez lui, voilà, donc c'est assez compliqué si vous voulez s'organiser au niveau de l'emploi du temps. Et comme ADH est un peu l'équipe stable du podcast, on va dire. d'ailleurs, on recrute toujours, hein. Y a pas de souci. Donc voilà. Normalement, en août, il y aura une pause, parce que de toute façon, l'actu, ce sera pas trop ça.
On n'a pas grand-chose à raconter, ouais.
Voilà. Allez, les gens, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut à tous.